Il est 9h27 minutes. Ça me fait plaisir de recevoir aujourd'hui Vincent Marissal. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Pour nos entrevues, on parle de politique sans parler de politique, mais des fois on réussit pas tout le temps. Des fois ça arrive.
Tout est politique.
Des fois, c'est ça exactement.
Tout est politique.
Des fois on plie les genoux, on met le genou à terre. Ça arrive.
Ça va.
Quel genre d'été on passe comme député de Québec solidaire dans Rosemont? Est-ce que êtes-vous en vacances, première des choses?
Ben à moitié. La théorie veut que quand tu pars pas, t'es pas vraiment en vacances. Ça c'est vrai, puis c'est encore plus vrai avec ma job de député. Moi, j'ai les deux pires hôpitaux de Montréal, puis peut-être même du Québec. Puis là, je dis pas par rapport aux gens qui y travaillent, là, qui sont extraordinaires, là, je tiens à le dire, là, mais l'hôpital Maisonneuve-Rosemont puis Santa-Cabrini.
Ouais.
Vous en avez parlé, je pense, tout à l'heure.
Bon, Maisonneuve-Rosemont, je suis né là, il y a 57 ans, puis il était déjà désuet, je pense, l'époque.
Ben, il y a 70 ans, l'hôpital, il tient de la broche. Quant à moi, c'est un hôpital qui est dangereux.
Mm-hmm.
Là, on a bricolé de la climatisation en catastrophe, mais sinon, il y a des zones où il peut faire jusqu'à 40 degrés.
Ouais.
Là, je parle de gériatrie, notamment, là, des personnes âgées qui ont des problèmes. L'obstétrique, des femmes qui viennent d'accoucher avec des bébés avec 40 degrés. Docteur Marquis, avec qui je suis en contact régulier, les syndicats aussi, la direction aussi qui collabore. Donc, je suis occupé avec Maisonneuve-Rosemont, ça, c'est clair. Puis, je fais pas juste de la politique, là. Ça prend un nouvel hôpital, puis plus on retarde, plus on s'achète du trouble, parce que, à un moment donné, cet hôpital-là, il va devenir encore plus dangereux.
Ouais.
Puis, Santa-Cabrini, même chose. Là, on a annoncé, là, Christian Dubé a annoncé quelque chose pour des salles d'op. Tant mieux, très, très bien.
Mm-hmm.
Mais ce n'est qu'une partie du casse-tête. Alors,
ouais.
Je suis occupé avec ça. La crise du logement nous a beaucoup occupés. Elle nous occupe encore. Il y a encore des gens qui sont à la rue ou qui sont très mal logés. Des gens, beaucoup à Rosemont aussi, qui sont sous le coup d'une menace d'expulsion. Ces gens-là, on peut pas les laisser tomber parce que c'est l'été. Alors, je suis à moitié en vacances, mais de toute façon, avec les téléphones intelligents maintenant, on peut nous joindre partout.
On peut jamais être en vacances.
Non, puis la pandémie nous a démontré qu'on peut faire des réunions partout, même dans son auto, avec des zooms et tout
ça. Même au volant, des fois, pendant qu'on roule.
On a vu des gens faire des analyses de hockey, même dans leur auto. Ouais. Alors, je pense que c'est le défaut de la qualité de l'affaire, là, de la technologie, c'est qu'à un moment donné, on n'a plus d'espace privé. À moins d'être dans le bois. Creux, ou en plongée sous-marine, peut-être le zoom ne se rend pas, mais j'ai pas l'occasion d'aller creux dans le bois, puis je fais pas de plongée sous-marine.
Vincent, je te vous vois parce que t'es député, dans la vie de tous les jours, on se tutoie, toi et moi, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît.
C'est vrai.
Comment tu trouves ça être politicien? Tu sais, il y a une expression qui dit souvent, il faut jamais confondre le tourisme avec l'immigration.
Mais
tu sais, t'as commenté la politique pendant nombre d'années.
Ouais.
Puis là, à un moment donné, tu franchis le Rubicon, tu t'en vas de l'autre côté.
Ouais.
Après quelques années d'expérience, comment tu trouves ça?
De mieux en mieux. L'atterrissage a été difficile, je le reconnais. J'ai trouvé... Je dirais pas, là, parce que ce serait prétentieux que je suis sur mon X, mais je suis mieux, je suis de plus en plus à l'aise dans ma nouvelle job.
OK, mais t'as peu,
ça s'apprend. Ben, ça s'apprend, la politique. Puis, tu sais, comme commentateur, comme journaliste, c'est dans notre ADN de pas être partisan.
Ouais.
Puis de toujours trouver les deux côtés de la médaille. Puis quand tu vas en politique, parfois, la politique supporte mal les nuances. Puis il faut que tu sois toujours à l'attaque. Puis il faut que tu sois très, très décisif. Parfois, moi, je fais des points de presse, puis les gens des communications chez nous, après, me disent « Vincent, c'était super bon, mais tu viens de faire une analyse, pas un point de presse.
Ouais. »
Puis ben, là, je leur dis « Regarde, non, on peut sortir le gars de la chronique, mais on sortira pas la chronique du gars si facilement que ça. » J'ai fait ça pendant 20 ans, 25 ans de couverture politique. Alors, l'image que j'ai souvent, c'est que c'est pas parce que tu as grandi à côté d'un lac que tu sais nécessairement nager. Tu connais l'eau, tu sais c'est quoi. Peut-être que tu sais nager, peut-être que tu sais pas nager quand ça vente puis quand c'est la tempête. Peut-être que t'es pas le meilleur nageur, peut-être que tu traverseras pas le lac à la nage.
Ouais.
C'est autre chose, c'est tout autre chose.
Mais aimes-tu ça?
Oui.
Est-ce que c'est quelque chose que t'aimes?
Oui,
parce que
ça.
Des fois, tu peux te présenter en pensant que... Puis finalement, tu te rends compte que la réalité n'est pas du tout la même.
Il y a des gens, d'ailleurs, qui font un mandat, qui s'en vont en courant.
Ouais.
Si j'aurais su, j'aurais pas venu, là, comme disait le vieux film français. Non, j'aime ça. J'aime ça, mais je suis un gars exigeant, puis je me contente pas de peu. Je veux contrôler ce que je fais en politique. Je veux comprendre. Je veux avoir des actions signifiantes aussi. Pas juste du blabla, puis je veux aider mon monde aussi, là. Je parlais de crise du logement et autres. Moi, je veux
aider
mon monde.
C'est la base même du travail de député. On oublie souvent là, que
absolument.
C'est d'abord répondre à tes commettants dans ton comté.
Puis le jeu politique, c'est exigeant. Tu le sais, je vais te tutoyer aussi. Tu le sais, t'as couvert assez longtemps. tu sais, quel est le pourcentage de députés à l'Assemblée nationale sur 125 qui sont vraiment là dans la première classe, là, qui à chaque fois qu'ils se lèvent, là, tu sais que ça va être parfait. On est minuté. Une question, c'est une minute. Les subséquentes, c'est 30 secondes. Ouais. Tu peux pas te planter. Il y a plein de mots qu'on peut pas dire. Il faut que ta question soit percutante, mais qu'elle ait un sens aussi. Pas juste du show, pas juste là, des effets de toge. Alors moi, je comprends que j'ai encore des croûtes à manger, en tout cas pour mon rôle, notamment à l'Assemblée nationale.
Ouais.
Je suis pas où je voudrais être. Fait que je continue. Je fais mes devoirs, là, ça, j'ai gardé ça de mon époque de journaliste. T'sais, j'arrive bien préparé, mais je veux être performant. Tu sais, un député, je le dis sans mépris pour personne, mais tu sais, une plante verte, backbenchers, pourquoi? Là,
as-tu l'impression, parce que vous êtes 10 de Québec solidaire, puis bon, évidemment, ils ont dispersé à 10, là, faut que tu essayes de couvrir un large spectre. Tu sais, comme toi, tes responsabilités, c'est économie, innovation, finance, fiscalité, revenu, conseil du trésor. C'est assez large, là, tu sais, c'est beaucoup de
rajoute métropole et éthique.
Ouais, en plus.
Oui.
Alors, as-tu l'impression d'être efficace avec autant de responsabilités, puis as-tu l'impression aussi, et ça, c'est ce qui avait mené le départ de Christian Dubé la première fois, d'avoir un impact sur le plan politique. Il pensait, lui, dans l'opposition à l'époque, avec la CAQ, qu'il y aurait davantage de pouvoir de changer les choses. Puis c'est pour ça un peu qu'il était parti à la Caisse de dépôt, puis il est revenu ensuite parce qu'il se voyait au gouvernement, il s'est dit, on va peut-être avoir plus de chance.
Ouais. Faut être modeste. La politique, c'est une leçon quotidienne d'humilité. Moi, j'ai pas la prétention que je vais révolutionner le Québec, mais je veux qu'à chaque fois que je prenne la parole, non pas que ça ébranle les colonnes du temple, mais que ce soit entendu, puis qu'il y ait un message qui soit entendu et qui se rende aux bonnes personnes. Quand je fais toute ma cabale pour un nouvel hôpital Maisonneuve-Rosemont, je veux que ça soit entendu et c'est entendu. Mais cela dit, je répète, faut être modeste. Chaque jour suffit sa peine. Faut mettre son métier, son travail sur le métier chaque jour.
Mm-hmm.
La patience est une vertu en politique. Puis moi, je le dis parfois à mes plus jeunes collègues du caucus, parce que j'ai plus d'expérience, pas parce que je suis mon oncle, mais c'est parce que j'ai plus d'expérience. Donner du temps au temps. Ça se fait pas en claquant des doigts, là.
Ouais.
N'oublions pas, François Legault, en ce moment, là, avec ses 76 députés, là, il a l'air intouchable, là, mais ça y a pris 10 ans après avoir fondé son parti à devenir premier ministre.
Ouais.
Ça y a pris 20 ans de politique.
Il fallait qu'il y croie. Puis...
C'est rare, là, les instantanés en politique, de toute façon, ils sont solubles dans l'air. Les instantanés qui arrivent, là, on a connu là, des Michael Ignatieff, des sauveurs qui débarquent. Ça fait pas, ça tient pas, ça tient pas dans le temps. Alors moi, je dis souvent, donner du temps au temps.
Okay.
Après ça, il faut répéter. Faut répéter. Puis ça, c'est dur pour un journaliste, pour un chroniqueur.
Ouais.
Faut toujours répéter le message. Alors que comme chroniqueur, moi, je prenais soin de même pas répéter deux fois le même mot dans une chronique de 800 mots. Mais en politique, il faut répéter. La pédagogie, c'est l'art de la répétition. Puis ça, c'est pas naturel pour un ancien journaliste.
Ouais.
Tu sais, répète ton message, répète ton message. Oui, mais ça fait déjà trois fois, je le dis. Répète-le ton message, il va finir par... Tu vas finir par planter une graine, ça va finir par germer. Alors, faut être patient en politique.
On dit souvent que la politique, c'est dur sur la famille aussi, parce que souvent parti. Toi, ta blonde, c'est Catherine Richer, qui a déjà, que je connais bien, qui a déjà été, je la salue d'ailleurs, qui a déjà été chroniqueuse ici au 98.5 pendant quelques années. Vous avez une famille reconstituée, donc c'est une nouvelle réalité avec des enfants à travers ça qui...
Ouais.
Est-ce que c'est dur sur la famille? Est-ce que c'est...
Oui, c'est dur sur la famille. Puis, il y a beaucoup de gens qui quittent la politique en disant « je veux donner plus de temps à ma famille », puis souvent, on les ridiculise en disant « ah, ça, c'est l'excuse parfaite.
Ouais. »
C'est le joker là, que tout politicien...
Que tu peux disculper de...
Et je doute pas que certains gens s'en servent, là, comme d'un prétexte fallacieux, mais c'est vrai. C'est vrai, la famille en prend un coup. Québec, c'est à 250 km de Montréal. On changera pas ça, puis on déménagera pas l'Assemblée nationale. Elle est très bien où elle est. C'est dur. Les fins de semaine sont grugées par des activités. Souvent, des réunions plus tard. Puis là, maintenant, avec les hommes, on en fait des hommes, ça finit plus.
Mm-hmm.
Les attachés dans mon comté, ils m'attendent quand je reviens avec des dossiers, puis il faut que je livre, puis il faut qu'on soit présent. Puis après ça, ben il y a tout ce qui se dit sur nous, dans les médias, avec plus ou moins d'intensité. Des fois, ça va bien, c'est le fun. Des fois, c'est plus dur. Puis quand t'aimes quelqu'un, c'est dur de lire ça. T'sais, dire, mais voyons, pourquoi tu parles de mon chum ou de ma blonde dans ces termes-là? C'est pas la personne que je connais. C'est pas... Puis je me plains pas, là, j'ai choisi mon sort, puis j'en suis très heureux. Là, j'ai pas de récrimination à faire en particulier. Mais c'est sûr que pour les proches d'un politicien, c'est difficile. Puis on peut devenir assez facilement obnubilé par ce job-là.
Ouais.
On est comme toujours en... pas en combat, j'aime pas trop le mot, là, mais on est toujours en confrontation. La joute politique à l'Assemblée nationale, c'est ça.
Mm-hmm.
Les 45 minutes de période des questions, c'est ça. Tu passes 2 heures en crédit en face d'un ministre ou, dans mon cas, PDG de la Caisse de dépôt, il y a une forme de confrontation là-dedans parce que c'est action-réaction, c'est question. Quand tu arrives à la maison le vendredi soir, tu prends un verre de vin, il faut que tu déclotches.
Ah, oui.
Tu peux pas être sur ce thème-là. Là. Puis des fois, ma blonde me le dit, là, Vincent, t'es pas à l'Assemblée nationale. Ah,
c'est
là.
Ça.
Puis à chaque fois, je le prends dans la tronche, mais elle a raison de me le dire.
T'sais. Mais des fois aussi, tu veux partager ce que tu as vécu. Toi, tu étais parti toute la semaine à Québec, puis ça, puis tu reviens, tu retrouves ta blonde, tu veux partager des choses.
Oui.
Alors, des fois, tu vas ramener ça à la maison.
Assurément. Mais ça, tout le monde le fait avec sa
avec
job
sa
en
job.
Général.
Ouais.
En tout cas, quand t'aimes ta job, tu veux en parler. Cela dit, mon métier est quand même assez public.
Alors, tu représentes-tu à la prochaine élection?
Oui, assurément.
Oui?
Oui, oui, oui. Oh, oui, je me représente. Là, on tombe d'ailleurs à la rentrée de septembre en année préélectorale. Bon, on risque d'avoir une fédérale, puis on aura assurément un municipal avant. On verra dans quel état le paysage politique sera en janvier prochain. Mais oui, je me représente. C'est pas long, 4 ans. Puis là, en plus, on s'est fait gruger pas loin de 2 ans avec la pandémie. C'est pas un mandat normal. C'est pas un mandat régulier. Faire de la politique avec un masque quand tu peux pas serrer des mains puis parler au monde, c'est poche, là. Je peux vous dire que c'est poche. Au moins, on a pu continuer à l'Assemblée nationale.
Ouais.
Rapidement, puis on a pu faire notre boulot. Ça c'était essentiel.
On t'avait reproché d'avoir magasiné à l'époque tes allégeances politiques.
Oui.
Puis que tu étais allé flirter avec le Parti libéral fédéral, etc. As-tu toujours été quelqu'un de la gauche? Parce que QS, c'est un parti de gauche, là, on ne se le cachera pas.
Oui, moi, j'ai toujours été un gars à gauche.
Ouais.
J'ai pas eu une carrière militante étudiante aussi flamboyante que celle de Gabriel Nadeau-Dubois, par exemple, ou autre, mais j'ai été militant, moi, dans mes années de cégep, notamment. J'avais refondé l'association du cégep de Grimby, parce que j'allais au cégep de Grimby. Ensuite, à l'UQAM, j'ai été très militant aussi, en journalisme, mais aussi dans certaines associations. Puis quand j'étais au cégep, je me souviens, à l'époque, on se battait contre le dégel des droits de scolarité, contre le gouvernement Bourassa au début, Claude Ryan, qui était ministre de l'Éducation, après ça, Lucienne Robillard. Alors oui, j'ai eu un passé assez militant, j'ai eu un passé de gauche. Je viens d'une famille aussi qui est pas mal à gauche.
Ouais.
Des gens... Bon, politicien, mais pas militant, pas du tout. Oui, je suis un gars de gauche. Moi, la droite traditionnelle capitaliste m'intéresse peu. Je lui trouve plein de défauts, puis je trouve qu'on s'enferme dans des dogmes qui nous condamnent à répéter les mêmes erreurs.
Mais la politique fédérale t'avait intéressé à un moment donné aussi?
Ah, je peux pas dire que j'y ai pas pensé, mais tu sais, à partir du moment où tu y penses puis tu y vois pas, probablement la preuve que ça m'intéressait pas tant que ça, parce que la porte était ouverte, là. Et pas qu'avec les libéraux, là. Je veux dire, au fil de mes années, là, Jack Layton m'a approché. J'ai déjà été approché par le Bloc québécois.
Ouais.
C'est quelque chose qui a tout le temps été pas loin.
Ouais, mais il y a des partis fédéralistes là-dedans. Là. Et ceux qui t'ont approché, les libéraux, Jack Layton du NPD, c'est des partis fédéralistes. Là. Ah, bon, le Bloc, je comprends que... Non, mais dans ce cas-ci, mais t'as songé à aller... T'aurais pu représenter des partis fédéralistes?
Ben non. Parce que je ne l'ai pas fait.
Mais tu dis si tu y as songé.
Ah non, je n'ai pas dit que j'y ai songé. J'ai réfléchi à la possibilité de faire de la politique. Après ça, il s'agit de voir où. J'ai passé bien proche d'aller avec Valérie Plante aussi, parce que Valérie Plante m'avait fait une offre qui, ma foi, était bien intéressante. Ça m'avait un peu troublé, parce que je ne l'attendais pas du tout, celle-là. Puis j'avais jugé que c'était pas au municipal où je me voyais le plus. J'avais déjà, de toute façon, décidé que j'irais avec QS.
Ouais.
En tout cas, c'était sur le point de se décider, mais l'offre de Valérie Plante à l'époque m'avait titillé, m'avait intéressé, sauf que il y a plusieurs choses en politique. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu représentes? Avec qui? Puis où?
Ouais.
C'est sûr qu'à Ottawa, il y a des dossiers qui sont internationaux, il y a d'autres types de dossiers, mais à la fin du compte, quand j'ai analysé ce que je voulais faire, c'est pas là que je me voyais.
Okay.
Et je me voyais beaucoup plus à gauche. Moi, vendre, tu sais, des pipelines, puis le Canada pétrolier, là, ça m'intéresse pas.
Ouais.
Ça m'intéresse pas du tout.
Comment tu vois l'arrivée de Gabriel Nadeau-Dubois comme... ben là, vous autres, vous appelez ça porte-parole, mais on va vous entendre, c'est
co-porte-parole.
Co-porte-parole, oui. C'est chef de QS, là, on ne se cachera pas. Là.
Chef parlementaire.
Chef parlementaire, en tout cas, oui. Comment tu vois ça, son arrivée? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose pour votre parti?
Oui, on est rendu là. Pour nous, à l'interne, c'était comme la suite logique. Il n'y avait pas beaucoup de doutes. Et puis Manon a donné. Manon a vraiment donné. Elle s'est donnée. Manon, tu la connais, là, tu l'as vu aller en politique, c'est pas quelqu'un qui aime tant ça, la game, tu sais, la petite game macho politique, là. Manon, elle aime pas vraiment ça. Puis d'ailleurs, ça déstabilise souvent François Legault parce que elle reste sur ses questions, puis elle entre pas dans la petite game. Souvent les gars, excusez l'expression, mais des fois, on joue à qui pisse le plus loin. Mm-hmm. On va se le dire, on est petits gars, on est des fois un petit peu macho en politique, puis Manon, elle faisait pas ça. Donc, elle s'est donnée. Il était temps pour elle de passer la main. Gabriel arrive avec une autre dynamique, une autre personnalité. C'est un gars qui a un esprit analytique hors du commun. Moi, j'en ai côtoyé là, du politicien là, dans ma carrière de journaliste. C'est une capacité d'analyse qui est au-delà de ce que j'ai vu là, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas. C'est quelqu'un qui connaît très, très bien le parti aussi. Parce que le Québec solidaire, c'est une bête qui est parfois sauvage, indomptable parfois. Puis c'est comme ça, parce que ça va être comme ça. C'est des militants, des militantes qui sont à la base de cette affaire-là.
Mais est-ce qu'il est aussi à gauche que, je dirais, la base militante de QS?
Ben, pas toute la base militante. On est toujours à gauche ou à droite de quelqu'un, à la fin. Là.
Mais quand on regarde la moyenne...
Je pense que
du positionnement.
Ouais, Gabriel est capable de défendre tout ce qu'il y a dans le programme,
ouais.
Avec brio d'ailleurs, et peut-être même d'aller une petite coche plus loin par moment. Maintenant, est-ce que c'est l'élément le plus à gauche de tout le spectre QS? Probablement pas, mais moi non plus. Puis tout ça fait un ensemble. Tout ça fait un ensemble. Mais qu'on se trompe pas, là, Gabriel, il est à gauche, là.
Ouais.
Il est à gauche. Il donne une impression peut-être d'être un peu plus traditionnel parce que il a tout de suite épousé. Tu sais, quand je vous disais, moi, je suis en train d'apprendre mon métier de parlementaire, on dirait que Gabriel, lui, est comme Obélix, la potion magique, là, il est tombé dedans. C'est comme ça, c'est naturel. Fait qu'il y a peut-être là un politicien plus traditionnel.
Ben, on se cachera pas, quand il était à la tête des mouvements étudiants, bon, oui, c'était des mouvements à gauche, mais c'était de la politique aussi qu'il faisait à ce moment-là.
Je pense que Gabriel ne fait que de la politique.
Oui, exactement. Ben, hey, mon Dieu, t'as pas censé parler de politique, mais j'ai l'impression que c'est ça qu'on fait depuis le début.
Ben, je reviens pour parler d'horticulture ou de champignons.
Fais-tu ça?
Ben, les champignons, oui, assez peu d'horticulture.
Les champignons.
Les champignons sauvages.
Ah oui, t'es mycologue.
Ben, je vous dirais pas ça parce que je suis assez traditionnel dans mes choix, mais je capote sur les champignons dans le bois. Là,
Qu'est-ce que tu collectes?
Chanterelles surtout.
Ouais.
Un peu de bolet.
Ouais.
Mais comme je dis, je suis un petit peu pissou.
Quand je suis pas sûr.
Oui, oui, il y a des cèpes. Mais quand je connais pas, je mange pas parce que ça peut quand même être un peu dangereux. Là.
Mais en fait, tous les champignons sont comestibles. Certains, juste une fois.
Oui, c'est ça. Comme tu sais, oui, c'est ça. Ça sera ta dernière expérience avec la manie de tumouche. C'est vu comme ça, ils sont tous mangeables, effectivement.
Oh, oui.
Mais bon, parfois, ils vont t'amener dans l'au-delà. Ah oui, mais moi, je fais ça l'été quand je peux. Là, quand je peux prendre le bord du bois, là, je peux passer des heures à chercher des champignons.
Ouais. Tu fais beaucoup de course à pied aussi. T'es un gars très en forme. Tout ça. Ouais. Ta blonde aussi faisait de la course à pied à un moment donné.
On fait de la course. Moi, beaucoup moins qu'avant. En distance, parce que j'ai les deux hanches complètement finies. Il faut que je me fasse changer les deux hanches.
Ouais.
Puis avec la liste d'attente, ça va attendre.
Mais... Faut-tu te faire changer les deux hanches?
Ah oui, j'ai de l'arthrose bord en bord. J'ai des injections aux 6 mois.
Okay. On va arrêter là-dessus.
Ben oui.
Puis on va aller à la pause, puis on revient, on en reparle après. Après ceci.
Je reste là.
Bon, alors, on s'est quitté, on disait que tu as des problèmes de hanches, d'arthrose. Puis il faut que tu te fasses changer les deux hanches.
Oui, oui.
Pour vrai, là.
Oui, oui, je finirai pas ma vie avec les hanches d'origine, là, ça, c'est sûr et certain. On attend un peu voir comment ça réagissait là, avec des injections. Là. Il y a un nouveau produit là, qui s'appelle le Saint-Gall. Je ne voudrais pas faire de la publicité pour les pharmaceutiques. mais cela dit, je le dis parce que ça fonctionne. Dans beaucoup, beaucoup de cas, c'est cher, cela dit. Vous n'êtes pas assuré, là. Mais ça fonctionne. Ça m'a redonné une seconde vie parce que... À Noël, dans le temps des fêtes, à peu près, si je m'assoyais dans un fauteuil un peu mou, je n'étais pas capable de me relever tout seul.
Ah oui, à ce point-là.
Mon garçon est costaud, là, il m'aidait à me relever. Oui, oui, non, j'étais assez handicapé. Là, ça va mieux, mais je sais que je vais devoir les faire changer, c'est sûr.
Tu sais que Guy Carbonneau hein, s'est fait changer les hanches puis il joue au hockey.
On m'a dit les hanches, on m'a dit aussi peut-être les épaules. Il y a beaucoup de sportifs de très haut niveau qui sont comme l'homme bionique là, dans le temps, l'émission, le Six Million Dollar Man.
Oui.
Oui, mais ça marche. Les hanches, c'est un succès, un gros taux de succès de remplacement. Ça marche bien. Puis on m'a dit, on fait ça dans la journée, pas les deux, là, parce que ça serait trop. Là. Tu fais ça dans la journée, tu retournes chez vous, puis petite convalescence de quelques mois. Faut pas minimiser, là, c'est quand même chiant. Puis c'est de la médecine de guerre. Là. C'est avec des scie Makita, là, on fait ça.
Oui, oui, c'est ça.
On coupe, on choppe et on remplace. Là. Ouais. C'est mécanique.
Il faut qu'il t'endorme parce que sinon tu.
Non, c'est local, c'est une anesthésie locale.
Oui?
Ouais,
ah oui, en plus.
Oui. Moi, j'ai dit, je suis pas sûr que je veux voir ça tant que ça. Là. Ça m'intéresse pas, là, l'intérieur de mon corps à ce point-là. Surtout s'ils sortent des outils. Mais oui, c'est assez unanime. J'ai vu trois orthopédistes, puis c'est très clair que je ne finirai pas ma vie avec ce set de hanches-là.
T'as écrit longuement dans la presse, évidemment. Mm-hmm. T'étais chroniqueur, t'as été directeur de l'information, je pense, à la presse au début des années 2000, si je me souviens.
Adjoint, oui.
Est-ce que c'est. T'as écrit des livres aussi, quelques-uns.
Ouais.
Est-ce que l'écriture existe toujours? La flamme de l'écriture brûle toujours en toi?
Oui, mais j'ai peu de temps, puis ça me désole, parce que souvent les gens me demandent est-ce que tu t'ennuies du journalisme? La réponse est non, pas tant. Pas que je l'ai pris en aversion, le métier de journaliste, au contraire. Là, mais je m'ennuie pas.
Est-ce que c'est toi qui as quitté le journalisme ou le journalisme qui allait te quitter?
Moi, je pense qu'on s'est quitté d'un commun accord.
Ouais.
D'abord, c'est la presse qui m'a quitté. C'est pas moi qui ai quitté la presse. Soyons très clairs. Là, puis ça a mal fini. C'était pas cute. C'est pas, je garde de très mauvais souvenirs de ça. Puis pour moi, la raison de ma rétrogradation comme chroniqueur n'est toujours pas claire. Là. Mm-hmm. Les explications qu'on m'a données.
On te renvoyait dans la salle des nouvelles à l'époque, c'est ça?
Ouais, puis dit de même, ça a l'air terrible parce que je voudrais pas être péjoratif envers les journalistes là, de la salle qui font un excellent travail, mais normalement ça se fait pas dans le chemin se fait pas dans ce sens-là d'habitude. Quand t'es chroniqueur, moi j'en ai pas connu beaucoup, à moins qu'ils veuillent du jour au lendemain pour des raisons. Quant à moi, assez saugrenu, on m'a dit ben, regarde, t'es plus chroniqueur, tu vas redevenir journaliste. Comme je le dis, les raisons qu'on m'a données à l'époque ne m'ont pas convaincu. Ce qui me fait un petit velours, je dois le dire, parce que je suis pas quelqu'un de très vantard, mais ce qui me fait un petit velours, je dois le dire, c'est que chaque semaine, je rencontre quelqu'un qui me dit vos chroniques
nous manquent.
Ouais. Puis je le prends parce que ça a mal fini avec la presse, j'ai pas aimé ça. J'estime avoir été très très mal traité par ces gens-là, puis ça me fait un petit velours, puis je vais prendre les fleurs. J'ai reçu le pot là, en arrière de la tête là, un gros pot là, en arrière de la tête là.
Ouais.
Qui, quant à moi, n'était pas mérité. Puis, je vais prendre des fleurs. Alors, c'est drôle parce qu'on m'a dit, finalement, en filigrane, que j'étais pas tellement lu, puis que, tu sais, on pouvait très, très bien se passer de mes services, finalement. Et cela dit, les cimetières sont remplis de gens indispensables. Je pense pas que je suis indispensable. Pendant longtemps, on a dit, mon Dieu, faudrait pas que Folia parte de la presse. La presse va s'écrouler. Bon, la presse est encore là, même si Folia a laissé un trou béant. Mais quand les gens me disent, tu sais, et chaque semaine, plusieurs fois par semaine. Donc, je présume que c'est comme un petit sondage maison qui me laisse croire que j'ai pas fait une si mauvaise job.
OK. Mais dans ce cas-là, tu disais tout à l'heure que l'écriture t'intéresse encore.
Oui.
Qu'est-ce que tu voudrais faire? Tu voudrais te mettre au roman? Il y a beaucoup de gens qui...
Je pense à
Michel Jean, entre autres, qui écrit des romans puis qui sont salués, par la critique.
Ouais.
Excellent, très bien fait.
Je sais pas si je serais capable d'écrire un roman. Je sais pas. Faudrait que j'essaie un jour.
Mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire à l'écriture?
C'est sûr que j'ai toujours plusieurs essais en tête. C'est pas les sujets les plus palpitants, là. J'en avais un en route, là. Sur la fiscalité, notamment, une espèce de révolution fiscale. J'aimerais beaucoup, beaucoup... Moi, je me passionne depuis toujours sur le thème de la publicité négative en politique. Pas que j'en ferais puis que je souhaiterais que mon parti en fasse, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais de façon théorique, c'est un sujet qui m'intéresse. Il y a de la politique, il y a de la psychologie là-dedans, il y a du marketing, il y a un peu de tout, il y a un joli mélange là-dedans. J'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. D'ailleurs, je suis en train de faire du ménage à ma bibliothèque. Là, j'ai des livres, là, avec des post-it qui sortent de partout, là, parce que j'ai beaucoup lu ça. J'aillerais pas ça, faire un, un résumé, un wrap-up de ça à un moment donné. Je trouve qu'il y a un sujet qui est intéressant, qui est assez peu abordé au Québec. Et même en Amérique du Nord, aux États-Unis, c'est très, très, très étudié, très peu ici.
Ouais.
Et pourtant, ça fait partie de nos vies depuis toujours, depuis que la politique existe. Là.
Mais est-ce que tu voudrais le faire dans le cadre, justement, d'une politique qui s'apparenterait à une politique de Québec solidaire, ou vraiment émettre une idée qui t'appartient à toi, quitte peut-être à bousculer un peu certaines idées à QS, parce que c'est pas...
Non, je le dis
parce
ceci.
Qu'on est politicien dans une formation qu'on partage nécessairement l'ensemble des idées d'un parti.
Là. Oui, puis c'est pour ça que je dissocierais un projet comme ça de mon implication politique. Et ça devrait vraisemblablement attendre que je ne sois plus en politique.
OK.
Parce qu'il y a quand même une discipline de parti. Puis ce projet-là, il est plus académique, entendons-nous. Là. Si c'est sur la publicité négative, c'est quelque chose que je vois plus dans un continuum académique. Là. Je verrais mm-hmm. même un cours là-dessus. Là. D'après moi, ça serait bien intéressant. J'espère que je ne me ferai pas piquer mon idée là, aujourd'hui. Je pense être trop transparent. Mais le roman, c'est sûr que j'y pense souvent. T'sais, j'ai des anciens collègues comme Hugo Meunier ouais. qui écrit des romans, Katia Gagnon en a écrit, ouais. Michel Ouimet en a écrit, Rima a écrit aussi, Rima El-Khoury. Je me dis que c'est peut-être naturel, mais faire attention, là, il y a eu beaucoup d'appelés, peu d'élus ouais. dans le domaine de la littérature.
Ouais.
Mais peut-être juste pour moi, j'essaierais ça. Mais d'un autre côté, t'es tellement cartésien ouais. tellement analytique, mais tellement longtemps.
T'es un amateur de vin aussi.
Ouais.
Alors, écrire là-dessus, t'avais fait des chroniques, il me semble, aussi, dans une chronique spéciale sur le vin, etc.
Pendant quelques années, oui. Quelque chose plus sur l'industrie du vin. J'aimais beaucoup ça, faire ça. J'ai fait ça 5-6 ans à la presse. C'était un beau sideline. J'aimais beaucoup ça. Mais j'ai pas les compétences. Je suis pas œnologue. Mm-hmm. J'ai pas étudié là-dedans. J'ai un nez très moyen. J'aime ça, mais je suis vraiment pas spécialiste. Alors, j'écrirais pas là-dessus comme conseiller. Là. J'aurais pas la prétention de vouloir conseiller. Bon, quand des amis me demandent qu'est-ce que tu penses que je devrais acheter, je vais donner mes opinions, mais elles valent celles de n'importe qui d'autre là, qui se connaît un peu en vin. Alors, non, ce domaine-là, moins. Si j'avais 20 ans, cela dit, là,
ouais. puis
que j'étais devant le grand la gare des chemins de la vie, là,
tu cherches l'embranchement que tu dois prendre.
Oui, j'ai réétudié la viniculture, l'œnologie, mais plus la viticulture, en fait.
Okay.
J'aimerais ça être vigneron dans la vie. Ça n'arrivera pas parce que j'ai 54 ans, puis à un moment donné, je ne pourrais pas tout faire. Mais j'aurais aimé ça, j'aimerais ça. Puis... Des fois, je fais des petites suggestions à mes enfants. T'sais. Ils feront bien ce qu'ils voudront. Ouais, là,
mais là, tu es un citadin en plus. Là, fait que c'est dur de faire pousser de la vigne dans Rosemont.
Ça serait difficile, oui. La cuvée de la 13e. Là.
Mais oui, c'est ça. Mais tu n'as pas l'appel de la terre comme plusieurs peuvent avoir. Moi, j'ai cet appel-là. À un moment donné, je me dis...
Oui, j'aimerais ça.
J'aimerais ça avoir un bout de terre puis faire pousser 3-4 vignes. Puis,
J'adorerais ça. Cela dit, j'ai peut-être pas le pouce vert. Je sais pas si je serais capable de faire ça. Il y a même du monde qui font du vin et c'est pas ouais. c'est tous des premiers crus, on s'entend. Mais cela dit, le Québec s'est développé là, dans la viticulture de façon extraordinaire.
Vincent Marissal, ça a été un plaisir de te recevoir. Bonne fin d'été.
Réciproque, oui, merci. Toi aussi.
Mesdames, messieurs, c'est tout pour nous. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve demain matin à compter de 5h30. Bye-bye.